France Inter.
Ce soir, suite de notre série consacrée à un grand absent qui nous a quittés il y a 10 ans tout juste, et je vais éclairer dans cette émission un sommet de son œuvre, pas le plus connu, loin de là, mais qui méritait vraiment, 30 ans après, d'être remise en lumière. Deranged, c'était David Bowie, bien sûr, il y a 30 ans, en 1995. Je me rappelle le choc que j'ai éprouvé quand j'ai entendu cette chanson pour la première fois, c'était 2 ans plus tard, dans la BO du film de David Lynch, bien connu Lost Highway, une BO sombre et insidieusement angoissante, bien dans sa manière, dans laquelle on entendait aussi des groupes de rock et d'électro-rock dits industriels. Je pense à Nine Inch Nails, Marilyn Manson et l'allemand Rammstein. Rammstein. C'était étrange de retrouver David Bowie dans ce contexte. Cela dit, David Lynch a toujours eu le don de juxtaposer des musiques sans lien apparent et ses combinaisons avaient toujours quelque chose de visionnaire. En tout cas, cette chanson m'avait alors totalement pris par surprise. Pourquoi ? Oh, c'est une longue histoire. Trop de chansons signées David Bowie diffusées dans les années 80 me semblaient banales, sans grande personnalité. Et durant cette période, David Bowie était devenu qui ? Un personnage presque ordinaire, un chanteur populaire, chic et bronzé, cool et funky, tiré à quatre épingles, qui ne surprenait plus. Un comble pour David Bowie qui naguère avait provoqué, expérimenté et même déconcerté. Il faisait désormais partie du décor et d'ailleurs il en souffrait. Ma plus grande erreur, dirait un jour David Bowie, ma plus grande erreur dans les années 80, ça a été d'anticiper ce que je croyais être les désirs du public. Je me détestais. C'est dans ce contexte que David Bowie a pris une décision d'une rare audace pour un musicien de son statut. Il aurait pu, comme il l'a dit, je le cite, choisir la réclusion et se consacrer à l'art visuel, peindre, sculpter. Il avait alors 40 ans et des poussières. Oui, il aurait pu se retirer en somme et vivre des royalties de ses tubes. Beaucoup l'auraient fait à sa place, évidemment, s'il l'avait pu. Or, il a pris une toute autre direction, tout à fait surprenante. Il a décidé, façon de parler, de ne plus être David Bowie, de repartir à zéro, de renaître en tant que simple chanteur d'un groupe, comme s'il avait 18 ans. Il s'est en effet, à la fin des années 80, fondu au sein d'un nouveau groupe du nom de Tin Machine, un groupe au son grunge et industriel, dont les concerts étaient d'ailleurs annoncés sans que le nom même de David Bowie apparaisse, et ni même évidemment sa photo. Alors ça n'a pas trop marché, une bonne partie de ceux qui dans le public attendaient Let's Dance ou encore Ashes to Ashes quittaient ces concerts complètement déconcertés, généralement les tympans martyrisés. Mais David Bowie était à nouveau dans le mouvement et dans l'énergie, le désir d'autres choses en tout cas. Quelques années plus tard, David Bowie retrouvait Nile Rodgers, l'homme du groupe Chic, l'architecte de la chanson Let's Dance et de l'album du même nom. Ensemble, ils ont fabriqué un album nouveau, un album de style jazz funk qui a pour titre Black Tie White Noise, sorti en 1993 et un peu oublié aujourd'hui. Ça a remis David Bowie en selle. Il a choisi à ce moment-là d'ouvrir une toute nouvelle voie, de partir vers un autre but très surprenant. Je vous raconterai tout de suite pourquoi et comment. The music is outside, la musique est en dehors, elle est à l'extérieur. C'est ce que chantait David Bowie en 1995 dans un album qui s'appelle justement Outside et auquel je consacre le Very Good Trip spécial de ce soir sur France Inter. Alors il y a un jeu de mots bien sûr sur Outside qu'on peut très bien capter puisque en bon français on parle bien des outsiders, vous savez ceux qu'on n'attendait pas, sur qui on ne comptait pas dans le domaine du sport bien sûr, mais enfin pas seulement. Mais enfin c'est beaucoup plus vaste puisque en anglais un outsider c'est aussi un marginal voire un exclu. Et pour David Bowie c'est presque un credo personnel. Oui, pour lui, la musique ne peut que vivre en dehors de la société, en dehors du monde conventionnel, en dehors des places que l'organisation sociale a prévues pour vous. La musique, elle est l'expression justement de ceux de celles qui ne trouvent pas leur place dans le monde. Alors la genèse de l'album Outside a quelque chose de captivant, parce que c'est une aventure à tout point de vue, un voyage au sens propre et figuré, je vous le raconterai d'ailleurs tout à l'heure. Comme je vous le disais, David Bowie, à la fin des années 80, était insatisfait du rôle qui était le sien dans la musique populaire. Faut dire aussi une chose à jouer, c'est que sa vie avait changé. Il venait de se remarier avec Iman Abdulmajid, un mannequin d'origine somalienne. Et à sa fête de mariage, il avait retrouvé son vieux camarade Brian Eno. Celui avec lequel il avait, à la fin des années 70, carrément inventé un nouveau style dans le rock, qui était la rencontre d'une espèce de soul théâtral avec une certaine ambiance froide et industrielle, le tout pris dans une brume de sons de synthétiseurs. Une manière qui a beaucoup inspiré le style de bien des groupes de ce qu'on a appelé l'après-punk et notamment Joy Division. David Bowie et Brian Eno imaginent donc ensemble au début des années 90 un tout nouveau voyage. La première étape, elle est consacrée aux arts visuels. Oui, Brian Eno suggère d'abord à David Bowie de participer à un projet destiné aux habitants de la ville de Sarajevo, dans l'ancienne Yougoslavie, l'actuelle Bosnie-Herzégovine, qui est alors assiégée par l'armée serbe. 40 musiciens, en effet, ont été invités par Eno à créer une œuvre afin de témoigner de leur solidarité envers la population. Et David Bowie offre des dessins représentant le Minotaure, une créature mythologique qu'il a toujours obsédé. Alors ça n'a rien d'une fantaisie, hein. David Bowie n'a jamais perdu de vue tout au long de sa vie le dessin et la peinture. Il les a pratiqués pendant toute sa carrière. Et sa grande ambition, jeune homme d'ailleurs, était de devenir peintre. Il a même avoué un jour que s'il avait choisi plutôt de devenir chanteur, c'est tout simplement parce que ça rapportait davantage. Son intérêt pour l'art n'a tout au long de sa vie absolument jamais fléchi. Bowie en particulier a gardé un goût très prononcé pour les peintres de l'expressionnisme, hein, au style grotesque et grinçant, volontiers macabre. Il avait notamment une passion pour les artistes allemands Otto Dix, George Grosz et Max Beckmann, qui ont été, comme beaucoup savent, à la source de ce mouvement pictural de l'expressionnisme né en réaction aux horreurs de la Première Guerre mondiale. Et d'un outside, eh bien, Bowie et Eno vont renouveler l'approche expérimentale de la période dite berlinoise dont je vous parlais tout à l'heure. Les chansons qui composent l'album sont élaborées un peu à la façon de fascinantes sculptures sonores évoquant une sorte de jazz industriel. Elles glissent l'une vers l'autre avec la précision surnaturelle des séquences décousues d'un rêve ou plutôt d'un cauchemar. Et le tout a été assemblé grâce au patient travail de montage de Eno à partir des longues improvisations menées par les musiciens de Bowie qui jouent sans même savoir parfois dans quel tonalités, ils doivent se fondre. Au sein de ce chaos organisé, Bowie dessine et compose en même temps. Oui, parce que dans le studio, il a installé un chevalet et aussi un ordinateur. Alors, sur le chevalet, il fait le portrait de ses musiciens pendant qu'ils jouent, et sur l'ordinateur, il improvise les paroles des chansons de l'album. Alors, il reste maintenant à raconter le voyage tout à fait étonnant, à la fois géographique, social et culturel, qui se situe à la source de l'album Outside, paru, je le rappelle, en 1995, et dont voici deux titres saillants, Hello Space Boy, suivi du très beau No Control.
Very Good Trip sur France Inter. Mishka Assayas.
I can't believe I've no control, it's all deranged. Je ne peux pas croire que je ne contrôle rien, tout est dérangé. Ce sont les derniers mots de la chanson qu'on vient d'entendre, No Control, signée par David Bowie en 1995 dans l'album Outside. Encore le mot deranged, déjà employé dans la magnifique chanson I'm Deranged, hein, par laquelle j'ai entamé ce programme. Un mot qui n'a rien d'accidentel, puisque la notion de dérangement, au sens fort de dérangement mental, est au cœur de cet album Outside. Il est important de raconter maintenant l'étonnant voyage qui a conduit David Bowie et son ami Brian Eno à entreprendre l'aventure, car c'en est une, de cet album. En 1994, Bowie et Eno sont invités par l'artiste multimédia autrichien André Heller, qui réside dans une petite ville du nom de Klosterneuburg, qui est située au nord de Vienne. Et leur destination, c'est une banlieue proche, une banlieue qui s'appelle Maria Guging. Et elle abrite, cette ville, le site d'une clinique psychiatrique hors du commun, puisqu'on y expose des œuvres datant d'après la Seconde Guerre mondiale, exécutées par certains de ses pensionnaires. Et ceux-ci ont créé ces œuvres à l'initiative d'un psychiatre visionnaire qui avait pour nom Léo Navratil. Les malades dont ce Navratil avait la charge avaient subi, durant la guerre, d'effroyables traumatismes. Certains médecins autrichiens, en effet pénétrés des doctrines nazies, s'étaient livrés sur eux à des actes monstrueux en leur administrant des traitements expérimentaux. Les chocs électriques étaient courants, les viols également. Des centaines de ces malades avaient péri durant ces monstrueuses expérimentations. Et le docteur Navratil, qui avait donc pour charge de les soigner, a eu une idée extraordinaire. Il a suggéré aux survivants d'expulser le souvenir des sévices qu'ils avaient subis et de toutes les horreurs qui les hantaient au moyen de l'expression artistique, littéraire ou bien graphique. Alors soit ils donnaient des témoignages, des poèmes, ou bien ils dessinaient ou ils peignaient. Ainsi, au début des années 80, Navratil a eu l'idée de transformer toute une aile de la clinique psychiatrique de Maria Guging en galerie d'exposition afin d'y présenter au public l'ensemble des fruits de cet art qu'en anglais on appelle justement celui des outsiders, c'est-à-dire des exclus. Dans le monde francophone, on aurait tendance à parler aussi d'art brut, hein, selon la dénomination de Jean Dubuffet. D'ailleurs, il y a la collection de l'art brut que David Bowie allait fréquemment voir au nord de Lausanne, près de là où il habitait. D'où en tout cas donc le nom de l'album Outside. Et le titre que je vous propose d'écouter maintenant s'appelle The Voyeur of Utter Destruction, entre parenthèses as beauty, le voyeur de la destruction absolue, entre parenthèses, en tant que beauté. Un étonnant télescopage musical, j'y reviendrai tout à l'heure, sur lequel plane le très beau jeu du pianiste de jazz new-yorkais Mike Garson, un accompagnateur de David Bowie des grandes années, resté fidèle jusqu'au bout. I
Very Good Trip, Mishka Assayas sur France Inter.
Un assemblage de paroles sans queue ni tête pour un titre qui s'appelle We Prick You, signé par David Bowie pour son album Outside, paru en 1995, et auquel, je le rappelle, je consacre le Very Good Trip spécial de ce soir sur France Inter. Alors les paroles disent « Dites la vérité, on vous perce avec une aiguille, petites chaussures blanches, petits jouets tout noirs, on vous souhaite bonne chance. Une sorte de petite comptine maléfique faite de petits bouts de phrases aléatoires assemblés au petit bonheur la chance par David Bowie selon une technique qu'il avait déjà utilisée dans le passé. Et ça transmet un certain malaise envoûtant, ce qu'on vient d'entendre, c'est pas loin, parfois des ambiances propres au film de David Lynch du milieu des années 90. On était nombreux en ce temps-là à avoir été marqués, comme Bowie d'ailleurs, par la série Twin Peaks, laquelle avait inspiré à Bowie, parmi d'autres sources, le personnage imaginaire d'un détective, Nathan Adler, une sorte de double de Dale Cooper. Vous savez, c'est le limier impassible de la série de Lynch, qui est aussi impénétrable quand il pose des questions aux témoins que quand il déguste sa croustade aux pommes. Dans l'album Outside, justement, Bowie avait enrobé son entreprise en évoquant une ville imaginaire et un meurtre énigmatique, un peu comme dans Twin Peaks, et l'album avait pour sous-titre The Nathan Adler Diaries, les carnets de Nathan Adler. Alors tout ça était assez vague, on n'y comprenait pas grand-chose, tout comme chez David Lynch d'ailleurs. Mais l'important, c'est que si vous écoutez cet album, eh bien vous êtes entraîné dans un monde sonore angoissant. Alors il y a par exemple une chanson, une sorte de récitatif plutôt, qui est scandé par un coassement de crapauds. À d'autres moments, on entend des monologues de divers personnages aux voix parfois déformées. Au fond, l'album Outside de David Bowie, c'est un peu comme la BO d'un film imaginaire que chacun est libre de se projeter dans sa tête au gré de sa fantaisie. Et comme chez Lynch, on y trouve un mélange déconcertant de mélodies très accessibles, parfois même lyriques, et d'instrumentaux lancinants, angoissants, traversés de bruitages et de voix parasites. Mais il y a aussi, je le souligne, un aspect documentaire dans cet album, puisque les chansons reflètent les œuvres de ces patients psychiatriques de la clinique autrichienne dont je vous parlais, ces patients qui étaient auteurs de textes, aussi de poèmes et de dessins. Et d'ailleurs, David Bowie avait pu en rencontrer certains. Je rappelle qu'on était au milieu des années 90, il y avait encore des survivants de la Seconde Guerre mondiale, et un homme qu'avait rencontré David Bowie se faisait appeler l'homme-ange. D'ailleurs, il y fait allusion dans la chanson I'm Deranged. C'est un homme qui répétait à qui voulait l'entendre qu'un beau jour de 1948, il était devenu un ange. Voilà. Alors, il y a un musicien qui a joué un rôle central dans l'élaboration de Outside, outre, bien sûr, le coproducteur artistique Brian Eno, c'est le guitariste new-yorkais Reeves Gabrels. David Bowie l'avait rencontré à New York à la fin des années 80, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Gabrels, lui aussi, est un musicien qui pratiquait la peinture comme Bowie, et il lui a fait découvrir à son aîné des groupes comme Sonic Youth et les Pixies, qui ont donné envie à Bowie, comme je l'évoquais tout à l'heure, de tout recommencer à partir de zéro et de créer le groupe Tin Machine. Gabrels est resté tout au long des années 90 le collaborateur privilégié de David Bowie. D'ailleurs, il s'est pas contenté de l'accompagner, mais aussi de l'inspirer. Il a également collaboré avec lui à l'écriture de ses chansons. Et Reeves Gabrels est aujourd'hui, depuis une bonne dizaine d'années déjà, le guitariste du groupe The Cure. La musique de Outside reflète, comme je vous le disais, toutes sortes d'influences qui, comme toujours chez Bowie, ne donnent pas des couleurs distinctes et individuelles à chacun des titres pris séparément. En fait, tout se mélange dans chaque chanson. L'électro-rock industriel de Nine Inch Nails, un certain trip-hop qui dominait encore la production de la musique électro-britannique dans les années début des années 90, les percussions syncopées de ce qu'on a appelé la jungle et ses fameux breakbeats, et puis il y a par-dessus tout ça encore le piano jazz de Mike Garson et bien sûr la voix théâtrale si prenante de David Bowie qui adopte différentes intonations, qui en fait se glissent dans différents personnages. C'est un peu comme un comédien qui se serait distribué tous les rôles d'un film imaginaire de son invention. We Outside, c'est vraiment un des albums les plus captivants de David Bowie de toute sa carrière, et je tenais ce soir à le mettre en lumière.
Old Touch Freak was the main name saver, suspected of being a shoulder surfer, but he didn't know from shit about challenge response systems. Now Ramona A. Stone, we knew, was selling interest drugs. She got males all hung up on her mind filters. She was, if you don't mind me saying so, an update demon. Now Leon, he couldn't wait for 12 o'clock midnight, he jumps up on the stage with a criss-criss machete and slashes around, cutting a zero in everything. I mean a zero in the fabric of time itself. Was this a suspect? I says to myself, whoa, Gil Courage. Oh wait, I'm getting ahead of myself. Let me take you back to when it all began.
Ramona
was so cold. When she broke it off with Leon, she said, the ring is enough. I don't want to see his face again. Ramona was so cold.
You
seem so thin and frail. Slinky secrets, hotter than the sun. No peachy frizz, no trendy réchauffé. I'm with you, so I can't go on. All my violence, raining tears upon the sheets. I'm bewildered, for we're strangers when we meet. Black screen TV, greening ourselves in the snow. Sunrise, and it's a dying world, humming rhyme gold. We scavenge up our clothes. All my violence, raging tears upon the sheets.
Strangers When We Meet, on sera des étrangers quand on se retrouvera, une des plus belles chansons signée et interprétée par David Bowie dans les années 90, période qui, comme on l'a vu, a marqué chez lui une véritable renaissance artistique, une chanson qui est le clou, sans doute, de l'album Outside, auquel j'ai consacré, je pense que c'était mérité, l'émission de ce soir. Alors, non sans raison, les connaisseurs de l'œuvre de David Bowie ont avancé que cette chanson, Strangers When We Meet, s'adressait en fait à son ex-femme femme Angie qui venait alors de publier un livre de mémoire, une sorte de témoignage à charge sur leur vie commune, un livre qui s'appelle dans sa version française Backstage, ma vie avec David Bowie, qui est sorti chez Belfond en 1990. Alors on peut aussi voir d'ailleurs derrière cette image du stranger, de l'étranger, une autre dimension qui est propre à l'essence artistique générale de Bowie, c'est-à-dire la folie, la schizophrénie, l'homme éternellement étranger à lui-même et qui ne se reconnaît pas quand ils se croisent. C'est pas fini pour Bowie cette semaine, puisque demain on le retrouvera pour une ultime émission de cette semaine qui lui a été consacrée. Et puis je vous informe et je vous rappelle, si vous le saviez déjà, que samedi prochain de 20h à 22h sur cette antenne de France Inter, eh bien il y aura une masterclass entre guillemets en public consacrée à David Bowie. Que vous dire encore que samedi soir, juste après cette masterclass, de 22h à 6h du matin, ce sera une nuit Bowie, au cours de laquelle vous pourrez entendre les 8 premiers épisodes de la série que j'avais consacrée il y a 2 ans, en été 2023, à David Bowie. Et enfin, je vous rappelle la publication d'un numéro spécial du magazine Légende, consacré à David Bowie, un numéro tout à fait intéressant, toujours une très riche iconographie et un témoignage assez passionnant de Tony Visconti. C'est tout pour ce soir. Merci beaucoup à Vincent Godard qui a réalisé et mis en onde l'émission. Merci également à Guillaume Cohener pour le site internet de Very Good Trip et merci également à Romain Couturier à la discothèque de Radio France.